J'ai oublié. Oui, c'est bien, elle ratera le début comme ça. Oui, le point sur lequel Suzanne et moi on a le plus de mal à s'entendre, enfin en tout cas on a régulièrement du mal à s'entendre, c'est de savoir combien d'argent dépenser sur les cadeaux de nos enfants quand vient le moment, comme à Noël ou lors d'un anniversaire, de leur acheter, de leur offrir du moins un cadeau. Suzanne, elle a toujours le désir d'offrir à nos enfants quelque chose qui va vraiment leur faire plaisir. Donc elle regarde d'abord à la qualité du cadeau et ensuite à la dépense. Tandis que moi, qui suis écossais par ma mère, c'est exactement l'inverse. Moi, ce que je me dis, c'est si on leur achète ça, ils seront sûrement très contents au début. Mais au bout de 15 jours, ça sera probablement déjà cassé ou alors ils vont s'intéresser à autre chose. Alors pourquoi dépenser tant d'argent sur un cadeau dont ils ne vont pas vraiment mesurer la valeur en fin de compte? Ils ne vont pas vraiment savoir combien d'argent on a mis dans ce cadeau. Ils ne vont pas en mesurer la valeur. Et vous, est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'offrir un cadeau à quelqu'un et d'avoir cette envie, quelque part, de laisser l'étiquette du prix dessus, juste pour que la personne à qui vous offrez le cadeau puisse vraiment mesurer la valeur de ce que vous lui offrez et par conséquent être incité à accorder à ce cadeau toute l'attention et le soin que le cadeau mérite? Vous avez peut-être envie de le faire, mais ça ne se fait pas, bien sûr, de laisser l'étiquette du prix sur un cadeau. Pourtant, dans ce texte qu'on est sur le point de lire, quelque part, c'est exactement ce que Dieu fait. Il laisse l'étiquette du prix sur un cadeau. C'est un texte connu qu'on est sur le point de lire. C'est un texte qui raconte la façon dont Dieu a provoqué la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Mais à travers ce texte, Dieu est en train de montrer à son peuple l'étiquette du prix de cette libération, à savoir, qu'est-ce que ça a coûté, cette libération que je vous offre? Eh bien, regardez l'étiquette du prix que je laisse dessus. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pour que le peuple d'Israël puisse prendre conscience et avoir perpétuellement conscience de la valeur de cette délivrance que Dieu opère pour eux. Dieu a offert à son peuple quelque chose d'extraordinaire, d'une qualité extraordinaire. Il n'a pas regardé à la dépense, mais en même temps, il veut que son peuple en mesure la valeur et que son peuple accorde par conséquent à ce cadeau que Dieu lui fait, toute la valeur, toute l'attention, tout le soin que ce cadeau mérite. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de lire le texte proprement dit, permettez-moi de vous poser une question ce soir. Comment évaluez-vous votre relation à Dieu aujourd'hui? Entre l'indifférence totale d'un côté et l'enthousiasme total de l'autre, où est-ce que vous vous situez et surtout dans quelle direction êtes-vous en train d'évoluer ces jours-ci? Il va sans dire que Dieu veut que nous grandissions dans notre relation avec lui. Il aime les hommes qu'il a créés. Et pour corriger l'indifférence qui s'installe si facilement dans notre vie, il veut nous présenter un remède, et notamment dans ce texte, il nous présente un remède, et c'est l'idée principale que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est la suivante. Et je le mentionnais tout à l'heure, Dieu veut que nous nous souvenions des conditions dans lesquelles il a acquis notre salut. Dieu veut que nous nous souvenions des conditions dans lesquelles il a acquis notre salut. Et jusqu'ici, à travers notre étude du livre de l'Exode, on a déjà vu que ce récit avait une portée pédagogique très très importante, au point que certains théologiens disent de ces événements de l'Exode qui sont, pour employer un terme technique, attention, un paradigme, le paradigme dans l'Ancien Testament de la rédemption que Dieu opère. Ça veut dire, en d'autres mots, un peu plus simple, moins technique, un modèle, un genre de modèle, un modèle dans l'histoire du salut que Dieu compte offrir aux hommes. Et ce qu'on va voir cet après-midi, ce sont cinq choses successivement qui nous sont présentées dans le texte et que vous avez mentionné dans le bulletin. Cinq choses successivement qui sont censées rappeler à notre souvenir les conditions dans lesquelles Dieu a acquis notre salut. J'espère que vous appréciez les allitérations. Le fil de l'histoire, la foi des sauvés, la fête de la libération, les fils des croyants et la fin de l'esclavage. Mais avant de commencer à lire le texte, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de pouvoir ouvrir librement la Bible et l'étudier ensemble. Nous reconnaissons que la Bible, ce sont des textes que tu as inspirés toi-même. Et c'est pourquoi nous voulons te demander ton aide maintenant pour comprendre ce que tu veux nous transmettre à travers ces multiples récits qui nous sont présentés dans la Bible. Alors Seigneur, viens à notre aide maintenant, viens au secours de notre intelligence qui est si limitée, et applique, s'il te plaît, par la puissance de ton Esprit Saint, la vérité de ta parole à notre vie. Amen. Alors, dans quelles conditions Dieu a-t-il acquis notre salut ? Premièrement, dans le cadre d'un plan souverain qui concerne toute l'humanité. Je vais commencer à lire chapitre 11, eh bien, les 10 versets du chapitre. Voici ce que nous lisons. « L'Éternel dit à Moïse, « Je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon, et à l'Égypte. Après quoi, il vous laissera partir d'ici. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. » L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte, par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Moïse dit, « Voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meule, et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tels qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. » Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi en disant « Sors, toi et tout le peuple qui te suit !» Après cela, je sortirai. Et Moïse quitta le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays. On va lire la suite dans quelques instants. Dans quelles conditions Dieu a-t-il acquis notre salut ? Donc, je le disais, premièrement, dans le cadre d'un plan souverain qui concerne toute l'humanité, et Moïse nous fait comprendre cela en attirant notre attention sur le fil de l'histoire. Dieu annonce d'avance dans ce chapitre, dans les quelques versets que j'ai lus, il annonce d'avance ce qui est sur le point de se passer, à savoir la mort des premiers-nés en Égypte, la mort des premiers-nés humains, mais aussi la mort des premiers-nés du bétail. Et ensuite, il parle de cette distinction qu'il va faire entre les Égyptiens et son peuple d'Israël. Il y aura des morts parmi les Égyptiens, mais parmi le peuple d'Israël, il n'y en aura pas. Mais cette annonce que Dieu fait concernant ce qui est sur le point de passer, elle est encadrée ou prise en sandwich, si vous voulez, par deux paragraphes au début et à la fin du chapitre, qui sont là pour récapituler la trajectoire du récit. Et en fait, dans notre traduction, nous avons un passé simple. L'Éternel dit à Moïse, verset 1, pareil, verset 9, l'Éternel dit à Moïse, mais d'après certains commentateurs, une meilleure traduction serait un plus que parfait. Je dis ça pour ceux qui sont férus de conjugaison. L'Éternel avait dit à Moïse, je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon. Et de même, verset 9, l'Éternel avait dit à Moïse, le Pharaon ne vous écoutera pas. Donc vous voyez, Moïse est en train de rappeler à notre attention le fil de l'histoire, la trajectoire du récit pour que nous comprenions et surtout que nous nous souvenions que ce qui est sur le point de se passer avec cette dixième plaie effroyable s'inscrit dans un récit plus général, plus global, celui des 10 plaies d'Égypte déjà, mais le récit des 10 plaies d'Égypte s'inscrit à son tour dans un récit plus général qui est celui de l'Exode, qui à son tour s'inscrit dans un récit plus général qui est celui de l'histoire d'Israël et qui à son tour s'inscrit dans un récit plus général qui est celui de l'histoire du monde et de l'humanité. Vous voyez, Moïse veut que nous ayons conscience, au moment de lire ces événements, de découvrir ce qui se passe, il veut que nous ayons conscience qu'il y a une direction à l'histoire, que Dieu a un plan et qu'il accomplit ce plan souverainement, et donc que Dieu a acquis notre salut dans le cadre de ce plan souverain. Le texte nous fait comprendre, vous voyez à ce stade, que le salut qui nous est offert par Dieu, avant d'y venir plus précisément, ne résulte pas d'une improvisation de la part de Dieu. On a tous en tête ces histoires rocambolesques d'un héros qui se retrouve piégé par un méchant, dans une situation désespérée, puis qui s'en sort parce qu'il arrive à trouver un truc avec les lacets de ses chaussures, ou avec un vieux trombone rouillé qu'il retrouve au fond de sa poche. D'accord ? Bon, c'est assez formidable, voilà un champion de l'improvisation. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu a acquis notre salut. Il n'a pas été contraint d'improviser. Dieu a tout prévu et orchestré depuis le départ. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus impressionnant. Dieu n'a jamais perdu et ne perdra jamais le contrôle de la situation dans l'histoire, depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est cette perspective que Moïse, qui écrit ce texte, veut que nous ayons au moment de lire les événements qui sont sur le point de se passer. Et cette considération doit déjà inspirer en nous une grande crainte, une crainte respectueuse devant Dieu, parce que Dieu est le maître souverain, capable d'orchestrer, de mettre en place souverainement, selon sa volonté seulement, tous les moyens pour réaliser son dessein. Alors on lit la suite On passe au chapitre 12, puisqu'on vient de lire le chapitre 11, on lit les versets suivants, chapitre 12. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. » Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera, c'est-à-dire le sacrifiera, hein, entre les deux soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, dans quelles conditions Dieu a-t-il acquis notre salut? Premièrement, on vient de le voir, dans le cadre d'un plan souverain qui concerne toute l'humanité. Mais deuxièmement, maintenant, il a acquis notre salut en pourvoyant lui-même à ce salut et en appelant simplement les hommes à une vraie confiance. Et c'est ce que Moïse veut nous faire comprendre cette fois en attirant notre attention sur ce que j'ai appelé dans mon plan la foi des sauvés. Dieu a annoncé ce qu'il allait faire, chapitre 11. Il a dit qu'il allait faire une distinction entre les Égyptiens et son peuple, les Israélites. Et maintenant, il explique à Moïse par quels moyens les Israélites seront sauvés de ce qui est appelé dans le texte le fléau destructeur. Par quel moyen? Il n'a pas annoncé jusque-là. Maintenant, il annonce par quel moyen cette distinction sera faite. Comment seront-ils sauvés, les Israélites? Ils le seront si par la foi, par la confiance en Dieu, en se fiant à ses instructions, eh bien, ils mettent du sang d'un agneau sans défaut sur leur maison. Voilà un moyen bizarre, hein? Ça a dû surprendre les Israélites. Dieu pourvoit le salut, il a annoncé d'avance, chapitre 11, maintenant il pourvoit le moyen du salut. Aux Israélites, maintenant, de se fier à Dieu. Et ceux qui seront sauvés, en fin de compte, sont ceux qui auront fait véritablement confiance à Dieu au point de suivre ses instructions finalement simples, quoique un peu étranges. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'acné sur le visage. J'ai consulté un dermatologue en m'attendant à ce qu'il me prescrive une pommade. Quoi de plus normal? On a des problèmes de peau, on met une pommade. C'est comme ça qu'on traite des problèmes de peau, enfin, à ma connaissance. Mais à la place d'une pommade, il m'a prescrit des gélules très très bizarres. C'était des petites gélules, tout ce qu'il y a, bon, ça avait la forme d'une gélule, normale quoi, mais elles étaient transparentes. Et on pouvait voir à l'intérieur ce qu'il y avait. Et à l'intérieur, il y avait des petites billes vertes, comme le t-shirt de Tédoué. Des petites billes vertes, vertes, vertes. Et il m'a dit, le dermatologue, prenez ça tous les jours et vous aurez moins de boutons. Bizarre. Impossible pour moi de comprendre comment ça allait marcher, ça. C'était quoi le rapport entre ces petites gélules et l'acné que j'avais sur mon visage? En même temps, j'avais un problème, effectivement, et c'est un professionnel compétent dans son domaine qui m'a dit quoi faire pour résoudre ce problème. Et non seulement il m'a dit quoi faire pour résoudre ce problème, il m'a prescrit un remède, et en plus, le remède était payé par la sécurité sociale, donc c'était gratuit. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Me fier à ce qu'on m'avait dit, à ce qu'on m'a présenté, et avaler une gélule tous les jours par la foi. Vous voyez, c'est ça la foi. Et figurez-vous que ça a marché. Hein. La semaine dernière, j'étais en Écosse et j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit qu'elle estimait que toutes les religions se valaient. Parce qu'à ses yeux, toutes les religions présentent certaines exigences morales aux hommes et qu'à ses yeux, toutes les exigences morales présentées par les différentes religions étaient à peu près équivalentes en fait. Il n'y avait pas beaucoup de différence entre ces exigences morales. Et d'après elle, toutes les religions présentent ces exigences morales aux hommes pour que les hommes les remplissent afin de plaire à Dieu ou bien d'accéder au paradis. Et cette personne a été surprise d'apprendre que la Bible ne présente pas les choses de cette manière, mais alors pas du tout. En fait, ce qui distingue le christianisme authentique de toutes les autres religions du monde, c'est que d'après le christianisme, c'est Dieu et lui seul qui pourvoit pleinement et gratuitement le salut aux hommes, par pur amour, par pure grâce, et si les hommes reçoivent ce salut que Dieu leur offre, c'est pas par le moyen d'actes méritoires, mais par le moyen de la foi, par le moyen d'une pleine et entière confiance en Dieu, au point de se fier à ce qu'il nous dit, au point de prendre le remède qu'il nous offre gratuitement. Il n'y a pas d'acte méritoire à faire. Alors on continue la lecture, verset 14. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Levain, un mot, hein, je précise. Hein. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays un immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé dans tous les lieux où vous habiterez. Vous mangerez des pains sans levain. Alors dans quelles conditions Dieu a-t-il acquis notre salut? On récapitule. Premièrement, on l'a dit, dans le cadre d'un plan souverain qui concerne toute l'humanité. Deuxièmement, on vient de le voir en pourvoyant lui-même à ce salut et en appelant simplement les hommes à une entière confiance. Troisièmement, il a acquis notre salut par des moyens efficaces qui doivent être commémorés. Et Moïse nous fait comprendre cela en attirant notre attention cette fois sur ce que j'ai appelé dans le plan la fête de la libération, mais que le texte appelle la fête des pains sans levain. Et Moïse insère des instructions concernant cette fête qui devait être commémorée par les Israélites tous les ans. Et il insère ces instructions en plein milieu du récit qu'il est en train de raconter. Bon, c'est un moyen efficace, hein, et d'un point de vue pédagogique, pour que les gens comprennent l'origine de cette fête et le sens de cette fête. Et ce qui caractérise cette fête de 7 jours, comme son nom l'indique, c'est que les Israélites, pendant 7 jours, ont mangé des pains qui ne contiennent pas de levain, donc des pains tout plats qui n'ont pas levé. Pourquoi ? Eh bien, pour commémorer le fait que les Israélites ont dû manger du pain non levé avec l'agneau que Dieu leur a dit de sacrifier, dont ils devaient mettre le sang sur les portes, etc. Et pourquoi c'était du pain non levé qu'ils devaient manger avec l'agneau ? Parce que le texte nous le dit, ils ont dû manger à la hâte, et quand on est pressé de manger, on n'a pas le temps d'attendre que le pain lève, donc inutile de mettre du levain dedans. Et pourquoi est-ce qu'ils devaient manger à la hâte? Mais parce que Dieu comptait les faire sortir hâtivement de l'Égypte. Et pourquoi est-ce qu'ils allaient sortir hâtivement de l'Égypte? Parce que la 10e plaie, et dernière plaie, allait être si efficace que le moment venu, ils n'auraient plus aucun autre choix que de quitter l'Égypte. Le texte nous dit que c'est Pharaon lui-même qui va les pousser, les chasser hors d'Égypte. Donc ils devaient être prêts, car le moment venu, ils n'auraient pas d'autre choix que de partir. C'est pour ça qu'ils mangent d'ailleurs avec leurs habits, la ceinture et même le bâton à la main pour être prêts à partir le moment venu. Autrement dit, la fête des pains sans levain, c'était pour le peuple d'Israël la commémoration de l'efficacité de la grâce de Dieu. On dit d'une chose qu'elle est efficace quand elle produit l'effet désiré ou l'effet escompté. Il est arrivé par exemple... Je vais embarrasser personne, mais il est arrivé à chacun de nos enfants de se retrouver au moins un jour dans sa vie, comme ça m'est arrivé moi aussi quand j'étais enfant, de se retrouver au moins un jour dans sa vie devant un bol de soupe qu'il ou elle était déterminé à ne pas manger. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de forcer un enfant, de le forcer physiquement à manger quelque chose qu'il ne compte pas manger, mais c'est impossible. Par contre, si vous lui dites qu'il ne pourra pas avoir de dessert ou qu'il ne pourra pas profiter de son activité favorite avant d'avoir terminé sa soupe, tout d'un coup, la soupe devient mangeable et elle peut disparaître même assez rapidement. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un moyen efficace de faire plier la volonté d'un enfant. Si Si vous voulez d'autres conseils sur l'éducation des enfants, n'hésitez pas à venir me voir après le culte. Vous voyez, mais de façon similaire dans le texte, Dieu met en œuvre un moyen efficace de faire plier la volonté du Pharaon et ainsi de provoquer la libération des Israélites. C'est un moyen tellement efficace, comme je l'ai dit, que le moment venu, les Israélites n'ont même plus le choix que de partir. Ils sont chassés hors d'Égypte par ceux-là même qui voulaient les garder en Égypte, jusque-là dans le récit. Quand Dieu sauve, vous voyez, il le fait efficacement, ou pour employer un autre terme, il le fait de façon irrésistible, il le fait irrésistiblement. Et si on lit le reste de l'histoire biblique, on découvre que Dieu effectivement est capable de mettre en œuvre, de mobiliser les moyens les plus efficaces qui soient pour réaliser son dessein, pour acquérir le salut pour les hommes. Et le moyen suprême que Dieu a mobilisé pour le salut des hommes, c'est d'avoir envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Dieu fait homme. Il l'a envoyé et son sang, infiniment précieux, a coulé à la croix pour expier de façon, voyez-vous, efficace, de façon efficace, les péchés des croyants. Est-ce que vous pouvez songer à un moyen plus efficace que ça pour expier les péchés de quelqu'un ? Que de verser le sang précieux du Fils de Dieu sur une croix. Et non seulement Jésus qui est appelé dans la Bible l'agneau de Dieu, en référence à l'agneau qui est sacrifié ici dans ce texte, non seulement a-t-il été offert pour notre délivrance, mais le texte biblique nous dit qu'il est ressuscité en vainqueur. Il est monté auprès du Père. Et auprès du Père, il intercède, c'est-à-dire il prie quelque part, il prie pour les croyants, il représente les croyants, de sorte que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, à son tour, il déclare ceci, je cite, « C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, c'est-à-dire par Jésus. » Voyez l'efficacité des moyens que Dieu a mis en œuvre. Voilà pourquoi en théologie, si ça vous intéresse, on parle de grâce efficace ou de grâce irrésistible, parce que Dieu sauve efficacement. Il sauve irrésistiblement les croyants. Et la Sainte Cène, d'ailleurs, qu'on va prendre tout à l'heure après la prédication, un peu comme la fête des pains sans levain, la Sainte Cène ou l'Eucharistie, pour ceux qui sont plus habitués au vocabulaire catholique, c'est une commémoration de l'efficacité de la grâce de Dieu, en fait. Parce que ce sacrement représente le pain représente le corps de Jésus et la coupe représente son sang. Ce sont les moyens que Dieu a mis en œuvre pour notre salut. On continue. Verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez, allez prendre du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteau, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous diront « Mais que signifie pour vous ce rite ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les Israélites s'en allèrent, ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Dans quelles conditions Dieu a-t-il acquis notre salut ? Quatrièmement, il a acquis notre salut par une grâce précieuse et coûteuse, et je vais revenir un petit moment sur cette expression, mais une grâce dont la valeur doit être transmise aux générations futures. Et cette fois, pour nous faire comprendre cela, Moïse attire notre attention sur le quatrième F, les fils des croyants. Moïse est en train de transmettre des instructions qu'il a reçues de la part de Dieu concernant le sacrifice de l'agneau et le sang qu'il devait mettre sur les portes des maisons. Il est en train de transmettre des instructions aux Israélites. Mais ensuite, juste après, il les enjoint d'en expliquer à leur tour le sens à leurs enfants, et cela de génération en génération, de façon perpétuelle. Vous voyez, il leur a expliqué le sens à eux. Vous voyez, quand vous mettrez ce sang sur les maisons, l'Éternel passera par-dessus vos maisons, et les premiers-nés ne mourront pas chez vous. Donc faites ceci, mais surtout, de génération en génération, expliquez le sens de ce qui s'est passé à vos enfants. On voit que pour Dieu, il ne suffit pas que les Israélites enseignent à leurs enfants que Dieu les a libérés d'Égypte. Il ne suffit pas de dire que Dieu nous a libérés d'Égypte. Il faut aussi leur dire comment il l'a fait. Leur expliquer par quels moyens et à quel prix il l'a fait. Pas juste qu'il l'a fait, mais comment il l'a fait et à quel prix il l'a fait. Il ne nous est pas difficile pour nous aujourd'hui, chrétiens, habitués à venir à l'église, il ne nous est pas difficile de voir la grâce de Dieu comme quelque chose de précieux. Effectivement, comme les Israélites qui ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte, nous qui avons placé notre confiance en Jésus, la Bible dit que nous avons été libérés de l'esclavage du péché, pour marcher en nouveauté de vie. C'est génial, c'est précieux, c'est formidable cette grâce. On a été réconcilié avec Dieu si on a placé sa confiance en Jésus. On a été pardonné de nos péchés, on a été rendu juste à ses yeux, on a reçu l'Esprit Saint, nous dit la Bible. Et on est destiné à vivre éternellement en sa présence. C'est précieux ça comme cadeau, non? C'est formidable. Il ne nous est pas difficile de voir la grâce de Dieu comme quelque chose de précieux. Mais cette grâce précieuse est aussi une grâce coûteuse. Parce qu'elle a coûté cher. Vous voyez? Elle a coûté cher. Les Israélites ont été libérés au prix de la mort de nombreux premiers-nés en Égypte. Et de la même façon, les croyants de toute l'histoire sont libérés du mal et de la mort, au prix de la mort du premier-né de Dieu, son Fils unique, Jésus-Christ. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion de grâce à bon marché, chez le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer, qui est mort à l'âge de 39 ans, dans un camp de concentration, en 1945, et qui a dit ceci: « La grâce à bon marché, l'ennemi mortel de notre Église, c'est la grâce sans la croix. » Et comme les Israélites dans ce texte, nous aussi aujourd'hui, nous devons nous souvenir de la valeur de la grâce que Dieu nous fait. Et nous devons transmettre la valeur de la grâce à travers notre enseignement et à travers notre évangélisation, que ce soit à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de nos familles ou bien à l'extérieur de l'Église. Et cette valeur, la valeur de la grâce, où la découvre-t-on ? Sinon au pied de la croix ensanglantée, la croix imprégnée du sang de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. C'est là qu'on mesure le coût de la grâce, c'est-à-dire ce que cette grâce a coûté. On lit le dernier passage, les versets 29 à 42. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né du pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout premier-né du bétail. Le pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, le pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi aussi. » Les Égyptiens pressaient le peuple, ils avaient hâte de le laisser partir du pays, car ils disaient « Nous périssons tous !» Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leurs pétrins étaient enveloppés dans leurs vêtements, sur leurs épaules. Les Israélites firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Et l'Éternel fit en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils enlevèrent cela aux Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès pour Soukhot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder, sans avoir fait de provisions pour eux. Le séjour que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération. Permettez-moi juste de récapituler une dernière fois. Dans quelles conditions Dieu a-t-il acquis notre salut ? Premièrement, on l'a dit, dans le cadre d'un plan souverain qui concerne toute l'humanité. Deuxièmement, il a acquis notre salut en pourvoyant lui-même à ce salut et en appelant simplement les hommes à une vraie confiance. Troisièmement, il l'a acquis par des moyens efficaces qui doivent être commémorés. Quatrièmement, comme on vient de le voir, il l'a acquis par une grâce précieuse et coûteuse dont la valeur doit être transmise aux générations futures. Et cinquièmement et dernièrement, comme on va le voir pour terminer, il l'a acquis dans des conditions d'une grande gravité qui interdisent la légèreté, mais aussi le triomphalisme. Et c'est ce que Moïse nous fait comprendre cette fois en attirant notre attention sur le dénouement de cette histoire, à savoir la fin de l'esclavage des Hébreux en Égypte. Ce qu'il faut remarquer ici, tout simplement, c'est la grande sobriété du texte. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Un commentaire que j'ai consulté compare cette partie du texte à une série de 7 dépêches succinctes destinées simplement à nous informer de la fin de cette affaire de façon assez sobre et avec beaucoup de retenue. C'est un peu comme si vous étiez vivant à l'époque et vous sortez votre ordinateur portable et vous allez sur le site internet de l'agence France Presse, de l'AFP, et puis vous suivez minute par minute les dépêches qui tombent, les informations qui tombent. Tiens, très tôt le matin, on apprend que les premiers-nés des Égyptiens sont morts dans toutes les maisons. Il y a eu de grands cris. Quelques minutes plus tard, nouvelle dépêche. Le pharaon et les hautes autorités égyptiennes enjoignent les Israélites de partir. Ils les obligent de partir. Quelques minutes plus tard, vous découvrez, oui, les Israélites, 600 000 hommes, quittent l'Égypte. Et pas mal d'autres personnes avec eux aussi. Vous découvrez aussi qu'ils sont partis en ayant obtenu la faveur de la population égyptienne qui leur a fait quelque part des cadeaux en partant. Pour le voyage, prenez ces objets d'or, ces richesses, ce bétail pour votre voyage, etc., etc. Mais il n'y a pas de triomphalisme dans le récit. C'est sobre. C'est grave. C'est sérieux. Et pour cause. Ce qui vient de se passer est effroyable. Absolument effroyable. Il ne faut pas sous-estimer cela. On est peut-être un peu habitué au récit des 10 plaies d'Égypte. Mais ce qui vient de se passer ici est une catastrophe pour la population égyptienne. Et l'épisode finit avec ces mots remplis d'une grande solennité qui concerne la future commémoration de ces événements où il est dit au verset 42 « C'est une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération. » Et aujourd'hui encore, je crois, mes amis, comme les Israélites devaient le faire, nous aussi, nous devons faire attention. En songeant au salut que Dieu nous offre, en commémorant ce salut quelque part, dimanche après dimanche, par le culte, par la Sainte Cène, nous devons faire attention de ne pas tomber dans la légèreté ou dans le triomphalisme à l'opposé. Parce que ces choses-là sont totalement déplacées quand on considère l'agonie de Jésus-Christ sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » s'est-il écrié. Au moment où il a été fait péché pour nous, au moment où la sainte et ardente colère de Dieu, normalement dirigée contre nos péchés, s'est abattue sur lui pour prix de notre salut. Vous pensez que la légèreté ou le triomphalisme sont à propos devant la croix de Jésus-Christ? C'est quelque chose d'effroyable qui s'est passé. C'est un grand prix qui a été payé pour le salut des hommes. Alors j'espère que vous voyez, pour conclure, que toute la leçon de ce passage, c'est que Dieu veut que nous nous souvenions des conditions dans lesquelles il a acquis notre salut. Il veut que nous nous souvenions des conditions dans lesquelles il a acquis notre salut. Alors j'ai conscience qu'il y a eu beaucoup de matière aujourd'hui, mais croyez-moi, on a à peine gratté la surface de ce qu'il y a dans ce texte. Mais puissions-nous au moins retenir cette idée? Bien sûr que nos pensées doivent être occupées par la substance du salut qui nous est offert en Jésus, c'est-à-dire ce qu'il est, ce salut. Mais il faut aussi, comme on l'a vu aujourd'hui, que nous prenions soin de nous souvenir du pourquoi et du comment de ce salut, c'est-à-dire d'où il vient, comment il a été acquis, à quel prix il a été acquis. Et je suis persuadé que la méditation des conditions dans lesquelles Dieu a acquis notre salut peut transformer bien des choses à notre vie. Ça peut transformer le regard que nous portons sur le culte le dimanche, par exemple. Ça peut conditionner la façon dont nous faisons de l'évangélisation. Ça peut conditionner la façon dont nous enseignons la parole de Dieu à nos enfants, dont nous parlons de ces choses en famille. Ça peut enrichir notre vie personnelle, notre vie de piété personnelle. Ça peut, mes amis, nous maintenir dans la joie et en même temps dans l'humilité qui conviennent dans notre relation avec le Dieu Tout-Puissant. Et puis ça peut, bien sûr, nous motiver à vivre une vie d'obéissance aux voies de Dieu. Et l'apôtre Pierre le dit lui-même dans la deuxième de ses lettres que nous avons dans le Nouveau Testament. Il compare... Il dit que quelqu'un qui ne porte pas de fruits, dans sa vie, dans sa marche chrétienne, il dit que c'est quelqu'un qui a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire qu'il a oublié quelque chose concernant le salut que Dieu a acquis pour lui. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, et c'est pourquoi il ajoute juste après, « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. » Et encore quelques versets plus loin, il en rajoute une couche. Il dit, « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Pourquoi » Pourquoi? Pour ne pas mettre en oubli le salut que Dieu a acquis pour nous. Amen.